José Arthur, autour duquel on a construit la maison de la radio. José qui allait rarement aux enterrements car les répétitions l'intéressaient moins que les premières. José Pop Club, José Charlie, José Théâtre, José Comédien. José qui pouvait parler plus que son invité sans qu'on s'en rende compte. José la Bretagne qui n'aurait pas non plus aimé l'extraction des sables coquillés du côté de Lannion. José qui piétinait le politiquement correct. Et José, t'as fait un pari avec Chancel là? C'était le premier qui allait au ciel, qui attendrait l'autre avec un micro? Et toi, tu l'as battu d'un an. José qui nous a appris que la liberté radiophonique ne s'use que si nous ne s'en sert pas. José qui disait que la radio est supérieure à la télé car on a supprimé l'image, mais surtout pas votre imaginaire. Alors José, cette émission, on te la dédie, mais c'est tout France Inter, tous les auditeurs par millions qui te disent aujourd'hui merci.
Je ne veux pas faire de la fausse modestie, mais le Pop Club n'est plus possible aujourd'hui, mais pour une raison précise, c'est qu'à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait une seule chaîne, la première en France, et elle finissait à l'heure où je commençais. Alors qu'aujourd'hui, sur télé, toutes les chaînes de partout, il y a 40 ou 50 pop clubs. Oui, donc c'est vrai que j'ai moins de mérite quand même avoir fait ça qu'aujourd'hui, ça serait pas faisable.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, c'est Haut de mon amour, parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes nous-mêmes le changement. Avec Philippe Duclos et Éric Mainviel à la technique et assisté de Jérôme Boulet, c'est Pierre Pageot qui réalise cette émission. Pierre Jabot. Et en plus, nous allons parler tout à l'heure d'oiseaux. Donc, le mot de jabot ira évidemment très, très bien. Ah, Davos, dis donc, t'as réussi à garer facilement ton jet là sur le parking, près de la piste, toi? Non, parce que moi, je me suis retrouvé à l'autre bout de ce coin de Suisse. C'est une galère. Ah ouais, c'est pas possible quand même. C'est russe, c'est bédouin en hélico, c'est chinois, aucune discipline sur le parking. Ah non, ça, Davos, c'est plus ce que c'était. Hein. On avait dit sobre cette année, juste merguez et jus d'orange bio, voilà, et voilà que les Russes ramènent des blocs de caviar millésimés. Ah, ces nouveaux riches, c'est impossible. Et puis alors ces écolos, ces altermondialistes qui vont nous faire la leçon avec nos 1700 avions pour 2800 chefs d'État et d'entrepreneurs, ça vole bas, ces arguments. Ah là là, je vous l'avais dit, c'est pas une bonne idée Davos cette année. Fallait choisir un bled discret, quoi, loin des foules, des médias, un lieu où il y a des choses concrètes à faire, quoi. Je sais pas, Port-au-Prince, Antananarivo. On aurait pu distribuer des billets, on logeait chez l'habitant. Enfin, non, peut-être pas complètement. On laisse un stade olympique en fibre de carbone ou un dispensaire écolo en partant. Puis là, on avait tout bon. Hein. Et puis l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, bah, il restait intact. Hein. Et on tenait le bar de la piscine. Alors là, on jetait une dizaine de rapports urgentissimes. Réchauffement climatique, la destruction de la nature. On jetait donc tout ça sur les chaises longues pour se caler la tête et on choisissait tous ensemble une date pour en reparler. Tiens, la clim est en panne? Oh là là, il fait déjà une chaleur fin janvier à la montagne, dans ces montagnes suisses. Ouh, ah bah, même les républicains américains ont désormais consigné pour l'histoire qu'ils ne contestaient pas la réalité du réchauffement de la planète. Mais le réchauffement d'origine humaine, là, chez les républicains, là, on est beaucoup plus calme, il y a encore un petit peu de boulot. Et puis tenez, le 18 juin prochain, un grand Charles va sortir des ténèbres pour lancer son appel à la Terre, celle qui se bat. Alors il y aura de la musique, des flonflons, de l'art, des gens qui descendront dans la rue. Ce sera un concert planétaire. Ah, formidable! Ils vont acheter plein de t-shirts et de casquettes de soutien fabriquées au Bangladesh ou au Pakistan. Moi j'ai reçu un mail des ateliers, ils sont déjà en surchauffe, c'est très bien. Non. Et puis les gens continueront à travailler quand ils ont un travail, en essayant malgré tout, donc malgré les contraintes, d'aller dans un autre sens que celui de la dévastation du monde, avec peu de moyens, mais un vrai courage. Vous avez quelque chose à rajouter? Ah bah oui, parce que nous on va passer pour des courges. Remarquez, c'est la saison des courges. Sauf si on sponsorise ce truc-là le 18 juin. Hein. Ah oui, ça peut être bien ça. Dites donc, c'est où pour faire le plein de kérosène? C'est compétitif là pour les tarifs? C'est toujours à la baisse, même à Davos? On se rend pas compte ce que ça bouffe un hélico.
CO2 mon amour, Denis Chessou sur France Inter.
Et alors dans cette émission, bah ce sera donc un magazine, autrement dit il y aura différents sujets. Je vais vous emmener sur le très beau plateau de Valensol. On y parlera lavandin, ça nous fera le plus grand bien. Vous savez, un petit pain de soleil comme ça au cœur de l'hiver. Nous allons parler avec Jean-Philippe Ciblet du Muséum National d'Histoire Naturelle des oies et puis des oiseaux au-dessus de l'Himalaya et ailleurs. On parlera d'hydrogène dans la Manche, on parlera jardin et puis on va aussi commencer par l'actualité. Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Denis Chessot.
Alors Frédéric, on va décrypter donc avec vous, comme nous le faisons tout à fait régulièrement, cette actualité. Et on va s'intéresser au CSPE, enfin à la CSPE, qui est la contribution au service public de l'électricité, donc que l'on paye chacun à chaque fois que nous recevons notre facture d'EDF. Et le Sénat donc, a décidé de remettre cela à plat. Alors il faut préciser que dans cette fameuse CSPE, il y a une grande partie donc, qui est consacrée au soutien aux énergies renouvelables. Pas que, hein, j'en ai parlé lors de l'île de aussi sur ce reportage. Ça sert aussi à payer le fioul dans les îles, voilà, donc c'est ça. C'est aussi la péréquation entre les territoires, c'est aussi évidemment la précarité énergétique, mais là on va cliquer, on va dire, sur cette case qui est la plus importante, qui est celle donc des énergies renouvelables. Donc remise à plat, parce que c'est vrai que c'était peut-être un peu nécessaire.
C'était peut-être un peu nécessaire. En langage technocratique, quand on lit le rapport, on appelle ça le guichet ouvert. Autrement dit, le système actuel permettait de financer grâce à nos factures, comme vous l'avez rappelé Denis, des installations photovoltaïques ou éoliennes de très grande taille qui n'étaient, grâce à ce concours public, qui n'étaient jamais que des placements financiers, tellement c'était rentable parce que le tarif, parce que les aides étaient étaient calculées sans compter. C'est un peu ça sur quoi revient.
C'est ce qu'on appelle un effet d'aubaine.
Un effet d'aubaine. Oui. Ou alors c'est une rente. On a créé facilement, avec de l'argent public, avec de l'argent de nos factures, de notre portefeuille, on a créé une rente pour des investisseurs qui avaient les moyens d'investir sur les éoliennes comme ils auraient pu investir sur ailleurs. Donc ça, c'est corrigé. C'est-à-dire qu'à partir, dès lors que les amendements à la loi seront votés, pour les grandes installations, l'électricité produite sera rachetée au prix du marché, tout simplement. Le différentiel sera en partie, je dis bien seulement en partie, compensé par une prime qui sera versée auprès des industriels. Donc il faudra quand même que les industriels, que les investisseurs fassent l'effort financier et peut-être qu'après ils s'y retrouveront.
D'accord, mais ça veut dire que pour le particulier,
ça ne change rien. D'accord. Ça ne change rien. Est-ce que c'est bien ou pas? Je ne suis pas convaincu, mais ça ne change rien. Le tarif de rachat est toujours de 8,2 centimes d'euros par kilowattheure pour l'éolien et, selon les types d'installation, entre 12 et 46 centimes le kilowattheure pour le photovoltaïque. Donc ça va plutôt dans le bon sens, ce que propose la Commission des finances.
Donc c'est une correction des effets pervers de la loi d'avant. Nous allons enfourcher notre bicyclette parce que Ségolène Royal, bah oui, c'est très bien. Ségolène Royal et Alain Vidalis ont présenté des résultats très intéressants cette semaine de l'expérimentation indemnité kilométrique vélo. Il s'agissait en fait de 8000 salariés qui étaient répartis dans 18 entreprises volontaires qui ont joué le jeu. C'était de mars 2014 jusqu'au mois donc de novembre, d'emprunter ou non leur bicyclette. Alors, le résultat est assez simple. Hausse de 50% de la part du vélo dans les déplacements domicile-travail, hein, dans les entreprises donc, qui ont participé à cela. La moyenne kilométrique, on va dire que c'est entre 4 et 5 kilomètres à peu près, donc il s'agissait de faire. On connaît évidemment les freins, c'est-à-dire la météo, les endroits qui ne sont pas encore complètement dédiés, bien sûr, au vélo. Mais n'empêche que c'est sacrément encourageant. Et puis, ça fait aussi partie, on va dire, de la loi dans laquelle s'inclut le vélo, donc commence à avoir doucement sa place. Alors un petit décryptage supplémentaire avec vous.
Alors c'est de l'ordre de 25 centimes nets par kilomètre qui sont versés aux salariés qui acceptent de venir en vélo, ce qui représente avec les charges entre 40 et 43 centimes pour l'employeur. Donc c'est quand même pas un effort qui est anodin. Il faut savoir que la Belgique et la Hollande versent à peu près la même chose aussi depuis longtemps. Il faut aussi comparer ça avec, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui sont aux frais réels, les frais kilométriques qu'on peut décompter de ces impôts, qui sont de l'ordre de 45 centimes par kilomètre. 45 centimes contre 25 centimes pour le cycliste. La voiture reste de toute façon favorisée, reste en partie défiscalisée. Voilà, on a une forme de subvention qui est versée au kilomètre pour les automobilistes. Alors c'est quand même un excellent moyen d'inciter les gens à faire du vélo, qui a prouvé son efficacité partout en Europe. D'autres pays ont d'autres types
Aux Pays-Bas, par exemple, qu'est-ce qu'ils font aux Pays-Bas?
Aux Pays-Bas, c'est l'achat du vélo qui est en partie déductible des impôts. En Grande-Bretagne, par exemple, le gouvernement de sa très gracieuse majesté allège les charges sociales des entreprises en échange d'un financement par elles-mêmes de l'achat de vélo par leurs salariés. Mais quand on regarde tout le panel d'actions qui ont été mises en place en Europe, on se rend compte que le facteur militant, devinez quoi, mon cher Denis, vous qui êtes cycliste, c'est la douche.
Bah c'est la douche, c'est ça.
C'est la douche dans les entreprises, un cadre, on peut bien le payer à 25 centimes d'euros le kilomètre pour arriver en vélo chez lui, dans l'entreprise. S'il arrive tout en sueur et tout crotté à La Réunion,
ben non.
Ça ne va pas le faire. Et c'est les Suisses qui ont mis ça en place et ça fait décoller l'usage de vélo en Suisse et dans d'autres pays. C'est l'installation de douches, tout simplement, hein, pas loin du parking à vélo. Des entreprises.
Bon, voilà. Écoutez, en tout
ça
cas, on le prend vraiment comme un bienfait, un signe tout à fait positif, sans parler évidemment des bienfaits pour la santé, on le sait. Restons dans la santé avec ce troisième volet, le bisphénol A. Alors, là, évidemment, il y a beaucoup de craintes dès qu'on parle de bisphénol. Vous regardez les films sur vos boîtes, pas la télé, mais dans vos boîtes de conserve à l'intérieur, et ben, vous avez du bisphénol. Dans les biberons, heureusement, c'est terminé. À l'intérieur des pots pour bébés aussi. Et alors, vous en avez aussi sur l'étiquette caisse, ça va s'arrêter bientôt. Et donc, l'Autorité européenne pour la sécurité des aliments a publié une étude cette semaine sur le bisphénol A. Et la conclusion, c'est que ce qui est présent dans les produits alimentaires ne soulève pas de risque pour la santé humaine parce que les niveaux d'exposition actuels sont bien en deçà de la dose journalière admissible ou tolérée.
Voilà, c'est la même chose. La DGA est devenue la DGT, peu importe. L'EFSA estime effectivement que dans ce que l'on ingère chaque jour, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ils ont scientifiquement peut-être raison, mais ça donne l'occasion d'un énième...
Ils ne s'inquiètent pas toujours très vite, hein, comme vous le rappelle.
Ils ne s'inquiètent pas toujours très vite. Oui, voilà, après, c'est toujours le même débat, c'est jusque où, ou plutôt à quel niveau on met la dose maximale acceptable, compte tenu du fait que ces produits agissent sournoisement pendant des années à très faibles doses. La logique voudrait que le niveau soit à zéro, c'est quasiment impossible parce que ces produits sont partout. Et donc ces doses, faut bien savoir que c'est un compromis. C'est un compromis sur ce qui est socialement acceptable, sur un risque socialement acceptable. Et pour ce que l'on en connaît, le risque, pour l'instant, est faible. Sachant que ce risque, il est démultiplié dès lors que vous faites chauffer votre plat tout préparé au micro-ondes dans son emballage plastique, ou que vous faites chauffer le pot pour bébé, ou la boîte de conserve, ou au bain-marie. Voilà. Pourquoi ? Parce que les bisphénols en général, se décollent très 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 facilement de leur plastique sous l'effet de la chaleur. Donc le bon sens consiste à ne jamais, jamais, jamais faire chauffer, même au micro-ondes, un aliment dans un emballage plastique. Jamais. À partir de là, on réduit assez considérablement le risque.
Ni de bébé d'ailleurs aussi au micro-ondes. En tout cas, merci beaucoup.
Ça se fait pas.
Merci cher Frédéric,
merci
donc pour
Denis.
Cette actualité. Et puis c'est quelques petites oies qui vont voler dans le ciel. Ça vous irait ça?
Oh bah oui. Ouais. C'est des oies de quelle espèce?
C'est des oies barrées, pas mal barrées du tout.
Très bien.
Non, elles
très
sont
bien.
Barrées parce qu'elles ont un très joli signé sur le côté en noir. Elles sont superbes. Et puis je vous emmènerai après batifoler dans un champ de lavandin. Ce sera juste après. Bah justement, le blues du cygne. Il me semble que vous êtes bien sur France Inter, que c'est bien CO2 mon amour, et nous vous souhaitons un bel après-midi. Choisi par Thierry Dupin, notre programmateur. Bah, écoutez, c'était le blues du Cygne. C'était pas trop blues. Pour une fois, Jean-Yves Murat, ah ben non, il avait plus bien la pêche, avec Delano Orchestra. Nous allons rester en, en levant les yeux au ciel, ce qu'a fait d'ailleurs aussi Jean-Claude Amezen ce matin dans son émission. On va revenir sur ce thème aussi parce que c'est l'actualité, avec Jean-Philippe Ciblet, qui est le directeur du service du patrimoine naturel du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, voilà, et aussi en ornithologue, quand même.
Absolument.
Mais oui. On va parler de ces oies, donc à tête barrée, parce que c'est pas les oies qui étaient barrées, c'était bien la tête qui est barrée, que l'on a vu au-dessus, donc qui passe au-dessus de l'Himalaya. C'est-à-dire qu'au moment de l'automne, du printemps, c'est la migration, et elle quitte la Mongolie, la Chine, pour atteindre le nord de l'Inde. Et évidemment, il y a une barrière à franchir, sans oxygène, là, comme ça, qui est l'Himalaya. Et puis, bah, on pensait que ces oiseaux, ils allaient haut, peut-être, et puis en ligne droite. Et donc, il y a eu une étude de Nature, donc qui est sortie pour nous dire, regardez, elles font un petit peu les montagnes russes, donc on a un peu envie d'en savoir plus.
Bonjour Denis, oui, effectivement, c'est quelque chose d'assez étonnant de comprendre que ces oies, finalement, ne volent pas, ne s'élèvent pas en ligne droite pour passer les cols himalayens, mais finalement font des montagnes russes, ni plus ni moins, c'est-à-dire qu'elles adaptent la hauteur de leur vol à la hauteur des montagnes qu'elles survolent, et ça tout simplement pour éviter les effets de la très haute altitude, qui sont raréfaction de l'oxygène, et puis qui augmente effectivement les difficultés de vol. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette étude, en dehors de montrer que, par exemple, lorsque les oies sont obligées de battre plus vite des ailes, ce qui augmente le rythme cardiaque, ça, c'est pas forcément une très grande nouvelle, mais c'est surtout qu'on s'est rendu compte que le vol à très haute altitude engageait finalement le pronostic vital de ces oiseaux, qui pouvaient dépenser beaucoup plus d'énergie que ce qu'il était nécessaire pour voler, et puis qui surtout...
C'est toujours la clé, de toute façon, voilà. C'est évidemment l'énergie emmagasinée avec la nourriture qu'elles ont prise avant, et puis aussi ce qu'elles vont dépenser.
Complètement, c'est exactement ça, c'est un rapport coût-avantage. Alors parfois ça peut être très intéressant de voler très haut, parce que comme pour les avions, elles peuvent être prises dans des jet stream qui les poussent. Ceci dit, si ces jet streams sont trop violents, elles peuvent être déroutées. Donc tout ça est un compromis extrêmement ténu. Oui. Et cette étude a montré, à partir d'une technique qui est maintenant éprouvée, c'est-à-dire on pose des petits émetteurs sur les oiseaux au moment de la reproduction, et puis lorsque les oiseaux reviennent sur leur site de nidification au printemps, on les recapture et on décharge les informations qui sont contenues dans ces dispositifs, qui enregistrent non seulement des données sur le trajet, mais également des données physiologiques sur, par exemple, la vitesse, le rythme cardiaque ou d'autres paramètres qui ont permis donc de montrer à quel point les oiseaux avaient été capables de s'adapter.
Et alors cet animal, donc, il fait à peu près 3 kilos, enfin 2 à 3 kilos,
c'est
donc
ça.
On l'a retrouvé à 7290 mètres, hein, quand même.
Oui.
C'est assez là. On rappelle qu'une oie, ça ne plane pas, hein, et donc ça n'utilise pratiquement pas les ascendants.
Hein, absolument, non, c'est un vol battu en permanence, et d'ailleurs ce qui fait qu'on connaît bien le phénomène des oies qui volent en V, hein, donc la première en tête consommant le plus d'énergie.
Quand vous regardez les grues cendrées, c'est exactement ça.
Voilà, c'est ça, hein, et puis d'ailleurs comme dans les pelotons cyclistes, celui qui est en tête dépense plus d'énergie que ceux qui sont derrière.
Bien sûr.
Et donc là, les oies à tête barrée, eh bien elles ont bien compris qu'il fallait optimiser, et on s'aperçoit qu'en mettant en œuvre cette technique, en gros, il a été estimé qu'elles économisaient environ 8% d'énergie par rapport à un vol direct qui serait partir du niveau de la mer pour grimper jusque dans les cols himalayens.
Et on rappelle que la moitié, on va dire, des oiseaux migrateurs ne dépassent pas 1000 mètres d'altitude.
Voilà,
c'est ça. Alors vous qui vous intéressez à la physiologie des oiseaux, qui les observez aussi, qu'est-ce qu'on a comme chose étonnante chez les oiseaux comme
Alors,
ça
il y a plein de choses étonnantes. Donc, déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est pourquoi les oiseaux finalement migrent. Qu'est-ce qui pousse ces oies à tête barrée à faire, voilà, donc c'est effectivement la nourriture. C'est la même chose pour nos oiseaux, pour nos petits passereaux insectivores. Il faut bien comprendre qu'en hiver, en Afrique, c'est une explosion de nourriture dont ces oiseaux raffolent, et qui est une nourriture qui est facile d'accès. Donc déjà, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. La deuxième chose, c'est que par exemple, il y a des oiseaux qui sont capables d'exploits incroyables, comme par exemple cette barge rousse qui est partie donc de ces territoires de reproduction en Sibérie et qui a été d'un seul coup d'aile en Nouvelle-Zélande, près de 11 000 kilomètres plus loin, sans s'arrêter, sans arrêt. Donc ça, c'est complètement étonnant. Et puis un autre exemple, un petit peu plus connu, c'est la fameuse Terre d'Arctique qui va du pôle Nord jusqu'au pôle Sud et qui, si on estime qu'elle a une durée de vie en moyenne de 20 à 25 ans, fait l'équivalent de 3 fois la distance entre la Terre et la Lune dans sa vie. Alors pourquoi elle fait ça? Tout simplement parce que pratiquement elle ne voit jamais la nuit, puisque quand elle est au pôle Nord, il ne fait pas nuit, et quand elle va ensuite descendre vers le pôle Sud, eh bien non plus. Donc elle a adapté sa vie à la présence pratiquement complète et permanente du jour.
Voilà, et mon réalisateur, donc Pierre Jabot, donc se dit, et pourtant, elle ne cumule absolument aucun miles, elle, pendant ses vols, c'est ça qui est fou. Eh bien, écoutez, un grand merci de nous avoir éclairé, Jean-Philippe Ciblet, et puis moi, je vais vous emmener sur un lieu aussi où il y a des oiseaux, mais il y a aussi des abeilles, c'est le plateau de Valensole, nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence.
Ce pays, il me chante qu'il ne faut surtout pas le quitter. Ce plateau, il aime, et lorsqu'on a les fêtes de village, on se retrouve tous autour d'un verre et tout, et on aime bien parler un petit peu des anecdotes d'un et de l'autre. Ah ouais. Et tout ça fait qu'il n'y a pas d'animosité ni de jalousie. Ça se passe très bien. Je ne sais pas si c'est l'effet que le plateau de Valensole soit grand, soit vaste, soit peut-être réservé à une 40 ou 50 familles, je ne sais pas, peut-être que c'est ça, mais on s'entend tous bien, on n'est pas là à regarder un mètre sur une limite, on n'est pas là, nous on ne mesure pas, ça se passe bien, et puis dans la joie et la bonne humeur, on va dire, vous voyez, mais après ce pays-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, mes grands-parents, on est là depuis plus de 300 ans, comme toutes ces vieilles familles-là, et puis ça se transmet, et puis on est heureux, et puis... Et puis lorsqu'on va voir le superflu, quelquefois sur la Côte d'Azur ou quoi, croyez-moi, au bout de 8 jours, on est bien heureux de revenir ici et de marcher comme aujourd'hui au milieu de ces lavandes-là, et de voir ces abeilles travailler, et de voir cette paix. Ici, on est en paix, vous voyez. Une petite brise avec la bonne odeur et les abeilles autour de nous, mais que voulez-vous de plus ?
Plateau de Valensole, Alpes de Haute-Provence. Nous sommes à peu près à 500 mètres d'altitude. Alors regardez, vous avez le Mont Ventoux qui n'est pas loin. Vous, à côté, vous avez la montagne de Lure. Et là, au bout, l'entrée des gorges du Vernon. À vos pieds ou presque, Manosque, Aigréoux-les-Bains. Voilà, on y est. Ce plateau de Valensole tailladé par quelques combes. C'est un pays quand même de rude. Hein. Faut le savoir, on n'est pas chez Pagnol, on est chez Giono, on est chez Pierre Magnan, donc c'est autre chose. Et on est sur ce plateau qui est aujourd'hui beaucoup dédié au lavandin. À comprendre quelle a été son histoire. 80% de produits industriels, des savonneries, des cosmétiques, de la pharmacie, et puis quand même de la lavande fine aussi pour les parfumeurs. Alors je vous emmène en compagnie de Jean-Pierre Jaubert pour cette petite balade. J'allais dire que c'est un petit pain de soleil, de chaleur qui est juste sorti du four pour vous. C'est-à-dire que je l'ai tourné, évidemment, c'était du côté du mois d'août. Voilà, et là je vous sors une bouillotte odorante pour cette balade dans les Alpes de Haute-Provence, sur le plateau de Valensole, avec Jean-Pierre Jaubert.
Sur ce plateau de Valensole, on a déjà 45 000 hectares de terre qui sont partagés entre les amandiers, la lavande et également des céréales. Alors, depuis les années 50, bien la lavande a été mécanisée, ce qui veut dire que les amandiers qui avaient le dessus à l'époque, qui utilisaient les 90% des terres, a été plus ou moins éliminé. Et la lavande a été mécanisée, comme je vous ai déjà dit, et a pris, bien entendu, énormément d'ampleur.
On est sur quelle terre ici ?
L'amande est un fruit d'une terre aride. Dès le mois de février, on a les premières fleurs. Et vous ne pouvez pas vous imaginer comme on est heureux de voir arriver ces premières fleurs, parce que souvent, on vient de passer quelques mois assez froids, assez compliqués. On a des périodes de mistral où ils peuvent vous faire du moins 2, moins 3, voire moins 5. Et on est heureux de voir arriver ces premières fleurs parce que c'est un peu la renaissance, quoi. Ouais. Donc, après, il y a des périodes où les champs d'amandiers sont merveilleux, tout est blanc. Ouais. Et en même temps, ça apporte une très très bonne odeur. Et on va dire, ça met du cœur à l'ouvrage, tout ça. Ouais. Parce que les lavandes, à cette période-là, sont binées, sont entretenues, sont même binées à la main maintenant parce qu'on n'utilise quasiment plus de désherbants. Et à partir du mois d'avril, les fleurs des amandiers sont terminées. Ouais. Et on attend impatiemment les premières fleurs de lavande qui arrivent, elles, au 15 juin, fin juin, quoi. Dans les pierres, quand même.
Oh
là là. Là, on est dans les cailloux, dans la terre argilo-calcaire, on va dire.
Ouais.
Et on pourrait croire que rien ne pousse, là. Eh bien, vous voyez, les lavandes sont magnifiques. Elles se comportent très, 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 très bien. Parce que nous avons besoin de cette terre drainante.
Ouais.
Si vous plantez de la lavande dans des terres fortes, dans des terres où il n'y a pas de drainage, la lavande ne sera pas bien. Vous voyez, c'est toute une histoire de terroir, d'altitude, d'humidité de l'air, de ventilation, il y a pas mal de paramètres qui font que le produit sera d'excellente qualité.
Quelle différence fait-on, c'est question classique, entre la lavande et le lavandin ?
Le plus schématiquement possible, c'est de prendre une graine de lavande, vous la plantez, elle pousse. Alors que le lavandin, vous prenez une graine de lavandin, quelle qu'elle soit, elle ne poussera jamais. Le lavandin, c'est un hybride.
Oui, c'est ça.
Donc il faut bouturer, il faut prendre sur des plants mères, comme on dit, raser, faire la bouture, planter l'année d'après. Ouais. Alors que la lavande, à l'époque, nos parents, grands-parents, allaient couper dans la forêt, dans les bois, dans les garrigues, et on distillait ce qu'on trouvait. Quoi.
Ouais.
Alors que le lavandin dure entre 8 et 10 ans. À l'époque, c'était 14-15 ans. Maintenant, on a ce problème de dépérissement, qui est une maladie qu'on arrive à... Enfin, c'est la cicadelle, qui pique la lavande et qui, au bout de 4, 5, 6 ans, la lavande, elle a dépéri. Et là, on n'a pas de produit, on n'est pas encore arrivé à trouver un produit qui arrive à stopper cette cicadelle. C'est un peu notre souci à l'heure actuelle, vous voyez.
Ouais, ouais.
On pourrait trouver, mais après, ce sont des produits polluants. Nous, on suit les règles qui nous sont imposées par, on va dire, l'Europe. On est tout à fait conscient de ne pas polluer non plus la terre parce qu'on a une transmission encore donnée. Moi, j'ai ça de mes grands-parents, de mes parents.
Ouais.
Moi, et moi, je vais transmettre déjà à mes enfants et petits-enfants. Il est hors de question de transmettre quelque chose de polluant et qui peut impacter notre sol et notre terroir et notre région pour plusieurs centaines d'années.
Alors comment faites-vous ? En fait, vous êtes obligé de travailler quand même malgré tout avec certains insecticides ou pesticides. Comment vous faites ? Ou très peu ?
Très peu. On a un passage d'insecticides, mais on va dire autorisé. Tout se gère très bien, quoi. Mais bon, à part que les produits sont de moins en moins efficaces. Il faut bien être honnête. Mais bon, après, à l'époque, il y avait des grands désherbants. Maintenant, on fait des binages 2, 3, 4 fois par an.
Ouais.
Un petit désherbant qui, quelquefois, est utilisé, mais pas par tout le monde. Et après, il y a du binage manuel. Hein. La pioche, et puis celle-là, on connaît. Hein. On voit bien que les produits de synthèse, à un moment donné, n'arrivent plus à être, on va dire... facilement commercialisable.
Ouais.
Lorsque vous parlez d'une traçabilité, d'un produit naturel, on arrive toujours à vendre le produit, à discuter sur le produit, on arrive toujours à justifier un prix, et les gens ne vous disent pas systématiquement c'est cher. Ouais. Et les gens, ils choisissent la qualité souvent. Vous voyez ?
Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de clients étrangers pour vous avec ce lavandin, donc cette huile que vous sortez? Ou bien est-ce que c'est principalement, je sais pas, des Français qui l'achètent? Ça part un peu partout ou...
Cette année a très très bien fonctionné avec la clientèle asiatique qui est friande de ces produits naturels. Alors lorsqu'on vous dit les Chinois, ils font des produits bricolés, trafiqués et tout, ben eux justement ils viennent à la source chercher des produits non bricolés, non trafiqués.
Ouais.
Je pense que pour eux, cette lavande, cette fleur, je pense que c'est la fleur de l'amour pour eux. Parce que cette année, on a eu droit à plus de 15 mariages.
D'accord.
Et là, c'est assez marrant parce qu'ils arrivent le matin vers 7-8 heures. Vous voyez les gens, ils sortent de la voiture. Mmh. La jeune dame prend sa robe de mariée, se change, le marié, la même chose.
À 8h30, ça y est, voilà, pratiquement on est marié. À
9h, la voiture arrive, les amis, sans doute les parents, les témoins. Et ils se font des mariages au milieu de la lavande.
Ah,
et
oui.
Nous... Tout le monde me dit « Oh, mais tu n'as pas peur qu'ils prennent un petit peu de la lavande et tout ?» Mais moi, bien au contraire, vous savez, le brin de lavande qui sera pris, là, les 3 ou 4 petits épis qui seront pris, faut être philosophe dans la vie. Et c'est-à-dire, ces épis, il faut se dire, dans 48 heures, ils seront peut-être à Pékin, Shanghai, ou aller voir où, je ne sais pas. Et moi, c'est ce qui me fait un peu rêver, c'est ce qui me fait énormément plaisir, vous voyez, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Vous savez, s'ils veulent reproduire, ils reproduiront comme ils veulent,
oui,
quand ils veulent.
Fois, oui.
Mais notre plateau, notre région, ces montagnes là autour, ils ne pourront pas nous les emporter, ça.
On a ce chant des abeilles qui continue, même s'il y a beaucoup moins de lavandin, mais c'est pas grave, elles sont là.
Hein. Elles sont là, oui, elles continuent à travailler. D'ailleurs, les apiculteurs commencent à peine à la récolte. Là. Ouais. Et là, je pense que d'ici quelques jours, on va avoir un miel cette année assez exceptionnel, parce que vu que l'humidité était là, l'abeille, quand même, aime bien l'amande.
Oui, elle aime l'amande, de toute façon.
Voilà.
Et puis elle pollinise l'amandier. Alors.
Tout à fait.
Et vous disiez qu'en fait, il n'y avait pas besoin d'abeilles pour polliniser.
Non.
C'est un petit peu l'avandin.
C'est un petit peu le problème de la lavande pour qu'il soit copain avec les apiculteurs. Bon, il est vrai que les machines avalent quelques abeilles au moment où elles travaillent. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Un apiculteur, il positionne ses ruches à côté du champ de lavande. L'agriculteur, lui, vient récolter. Il ne faut pas qu'on lui pose trop de problématiques.
Oui, trop d'obstacles. Disant,
trop d'obstacles, parce qu'il va dire, moi les abeilles, mais gardez-les vos abeilles. Moi je suis pour les abeilles, mais ne venez pas m'enquiquiner pour faire ma récolte. J'ai besoin de faire ma récolte.
Bon, donc il faut trouver le bon modus vivendi.
Vous avez tout compris. Il faut trouver le bon compromis, il faut trouver le bon dialogue. Là, aujourd'hui, les apiculteurs donnent 1,5 kg par ruche à l'agriculteur.
Alors c'est plus ça que les pesticides ici en fait, parce que donc on sait très bien qu'un des gros problèmes de l'abeille, c'est bien
aucun
ça.
Aucun problème de pesticides avec les abeilles, aucun. Si on traite, c'est au mois de février-mars, vous voyez, dont les abeilles sont loin d'être là.
Non, vous, c'est la mécanisation.
C'est la mécanisation où il y a ce petit souci. Quoi.
Là, on voit un panneau biodiversité en danger.
C'est peut-être pas marqué biodiversité, il me semble qu'il y a marqué lavande classée produit chimique. Non.
Alors, la lavande n'est pas un produit chimique, c'est ce qu'ils mettent.
Ah, voilà, tout à fait. Alors, la lavande n'est pas un produit chimique, et bien effectivement, la lavande, qu'est-ce que vous voulez faire? On extrait le parfum de lavande avec de la vapeur d'eau.
Ouais.
Donc, depuis peut-être le temps des Romains, on fait ce produit-là. Il est vrai que, bon, après, c'est un extrait, c'est de l'huile essentielle. Mais de là, nous le classer produit chimique.
C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce qu'ils veulent vous formater comment là?
Ils veulent nous formater que presque on ne pourra plus vendre notre produit, parce que notre produit ne sera pas un produit compatible avec l'être humain. C'est des produits qu'on ne peut plus envoyer aux USA comme le fromage, c'est tous ces trucs-là. Quoi. Comme je dis moi aux touristes quand ils me le demandent, buvez un litre de lavande, vous serez mort, mais buvez un litre de pastis, vous serez mort aussi. Pourtant, sur la bouteille de pastis, c'est pas marqué produit dangereux avec la tête de mort.
Cela dit, avant qu'on se prenne de l'eau avec de la lavande, on a encore un peu de marge.
Ah, mais quand même. À un moment donné, ce qui se passe dans ce pays, je veux dire même en Europe, on nous prend vraiment pour, je vais pas dire des ignares, mais pas loin, quoi. Vous voyez, on vous explique tout maintenant. Dès qu'il y a 2 cm de neige, on vous explique comment on conduit. Dès qu'il y a un peu de mistral, on vous dit attention, faites attention, parce qu'avec le vent, vous risquez d'avoir la voiture qui risque de chasser.
Ah bon ?
À un moment donné, s'il y a le soleil, attention, mettez le chapeau, sinon vous prenez un coup de soleil. Ouais. Et là, on est fatigué de ça. Franchement, on est fatigué. La lavande, le lavandin, ce sont des produits naturels, ce sont des produits à qui il faut faire confiance. Il faut surtout voir la traçabilité. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas des produits de synthèse et tout. Attention, c'est très très important ça. Mais une fois que vous êtes en produit naturel, vous ne risquez rien. On va dire, allez, une piqûre d'insecte, vous frottez un petit peu de lavande ou lavandin. On va dire, vous avez une petite douleur musculaire, vous passez un petit peu de lavandin, parce que comme je vous ai dit, il y a du camphre à l'intérieur. Pendant 2-3 jours, ça vous chauffe et tout. Mais il est évident, n'allez pas vous baigner dedans. C'est ça, quoi.
Des comptes du temps. temps avec un mixage, une réalisation donc de Pierre Jabot, notre réalisateur donc sur ce plateau de Valensole, avec aussi d'ailleurs d'un point de vue écologie, bon, on a compris que les gens faisaient attention évidemment à ce lieu, sinon ça ne tiendrait pas la route, avec aussi les ballots qui résultent évidemment de l'extraction de ce lavandin. Donc qu'est-ce que l'on en fait? C'est de la matière organique. Alors que ça peut être du paillage, hein, c'est une espèce de chausson qu'on va mettre donc au pied aussi de ces lavandes, au pied aussi des amandiers, parce que moins de degrés, après, hop, ça passe de l'autre côté. Hein, donc, faut faire. Et puis, quand même, on travaille sur la filière chauffage, parce que donc il y a un pouvoir calorifique qui est très intéressant dans ces ballots de paille. C'est en train donc de se mettre en place. Nous allons parler d'hydrogène dans quelques instants, mais musique sur France Inter, toujours CO2 mon amour, on y va. Ouais. Ah si, vous allez aimer. Si, si.
Toi qui n'as peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris, je m'en vais le cœur allumé. Je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai dans ton pays, je reviendrai. Toi qui ne m'avais rien répondu, je sais que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant me voilà tout peur, avoir confiance en moi, je ne repartirai pas. Qui n'a peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris, je m'en vais le cœur allumé. Je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai dans ton pays, je reviendrai. Toi qui ne m'avais rien répondu, je c'est que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant, mais voilà, tu peux avoir confiance en moi, je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas.
Que ceux qui n'aiment pas les vieux doigts, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Hein. France Inter, Made in Love, c'était Nat King Cole. Et on va faire maintenant un petit tour dans le département de la Manche. Dans cette émission, il y a de la nature, il y a du social, il y a du décryptage d'actualité, il y a des sciences et il y a aussi de la technique. On va s'intéresser à quoi? Eh bien, un vecteur énergétique très intéressant avec vous, Jean-François Legrand, parce que vous êtes le président du Conseil Général de la Manche, avec une inauguration en vue. Bonjour Jean-François Legrand.
Bonjour Monsieur Chessou, vous allez bien?
Oh, bah, nous allons bien, parce que nous, on a un air de la Manche aussi donc avec vous. Et puis, on va regarder ce qui se passe en termes d'innovation que vous affectionnez, parce qu'en fait, votre département est la première collectivité en France à s'équiper d'une station service à hydrogène. Alors, racontez-nous, ça va toucher quoi? Donc, les véhicules de la collectivité du département?
Alors, absolument. D'abord, nous sommes la première collectivité à nous doter d'une station de distribution d'hydrogène pour alimenter une flotte de véhicules qui est du Conseil Général de la Manche, avec aujourd'hui 5 véhicules, mais demain, un projet global d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de véhicules en association avec des communautés de communes, avec la Poste, avec des partenaires divers et variés. Et donc, voilà, c'est une opération que nous venons de lancer, que nous venons de démarrer. Peut-être faut-il quand même la remettre dans un contexte un peu plus large.
Je vous en prie.
Le contexte plus large, c'est que nous sommes dans le Cotentin, dans le département de la Manche, et au nord de la Presqu'île, un site qui va être producteur d'énergie d'une quantité assez phénoménale, puisque si on englobe l'ensemble des productions d'énergie, qu'il s'agisse de nucléaire, qu'il s'agisse de la biomasse, du solaire, de l'éolien offshore ou encore de l'hydrolien dans le Bras Blanchard, nous arrivons à une capacité d'environ 9 à 10 gigawatts de production, soit à peu près 10% de la production française d'énergie.
On sait quand même que le nucléaire est peut-être le plus important dans votre coin.
Oui et non, parce que ça donnera à peu près un peu moins de la moitié de la production d'hydrogène, puisque les éoliennes offshore, alors pas forcément sur le littoral manchois stricto sensu, oui, mais dans l'environnement immédiat, et surtout le raz Blanchard, qui est un courant extrêmement fort, un des plus grands courants d'Europe.
Entre 19 et 21 nœuds, c'est à peu près ça. Enfin,
à peu près, ouais. on est concurrencé, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, par la baie de Fundy au Canada.
Ah, pardon.
Mais nous avons donc les deux grands sites mondiaux, c'est Fundy et le raz Blanchard, ouais, et nous avons une capacité de 2 à 3 gigawatts de production à partir de l'énergie hydrolienne, c'est-à-dire des éoliennes sous-marines.
Alors, il faut rappeler quand même comment se fabrique cette fameuse hydrogène, parce que c'est vrai que ça consomme, enfin, il faut de l'énergie, c'est ce que vous êtes en train de
nous
dire.
Il faut de l'énergie, c'est pour ça que je pars de ce principe, nous sommes déjà producteurs d'énergie en très très grande quantité, au-delà de nos besoins de consommation, et nous nous sommes posés il y a quelque temps déjà la question du stockage de l'énergie.
Oui.
En découvrant le stockage de l'énergie, nous avons retenu la filière hydrogène, qui est une filière en devenir pour certains de ses aspects, mais déjà établie pour d'autres aspects, notamment tout l'aspect industriel de l'usage de l'hydrogène. Et donc, il y a là un vrai marché national et européen qui nous a intéressés. Nous nous sommes donc orientés vers cette production d'hydrogène, d'autant plus facilement que la production d'électricité avec les énergies renouvelables, notamment les énergies marines renouvelables, est une production qui n'est pas continue, comme peut l'être celle de l'énergie fossile, mais bien évidemment du nucléaire. Et donc nous sommes posés le problème de ce stockage.
Oui.
Et c'est là que nous avons découvert que la filière hydrogène est une filière à part entière.
Donc l'hydrogène, on va dire que ça va servir de réservoir, en quelque sorte, de cette énergie.
Un réservoir et en même temps un usage.
Oui.
Et un usage qui permet de corriger le caractère alternatif de la production d'énergie. Donc on peut produire de l'hydrogène, mais nous avons également passé un contrat avec des grandes entreprises pour que nous soyons un démonstrateur territorial sur d'autres usages de l'hydrogène. Dans les autres usages, il y a la production, ce qu'on appelle le power to gas, c'est-à-dire l'injection d'hydrogène dans les canalisations de gaz, et là il y a un potentiel de développement important, que ce soit sur les smart grids, c'est-à-dire sur les réseaux intelligents où l'énergie sera produite à partir de l'hydrogène, et également la mobilité, et dans la mobilité, il y a ce qu'on vient de faire, à savoir la première station de distribution d'hydrogène pour des véhicules, qui sont en fait des véhicules électriques dont l'autonomie est prolongée via des piles à combustible qui permettent, avec l'hydrogène, d'augmenter l'autonomie de ces véhicules.
C'est-à-dire qu'au lieu de passer, on va dire, à 50-60 km, quelle est l'autonomie avec les piles à combustible?
Alors, ça tout dépendra de la pression que l'on mettra dans les réservoirs d'hydrogène, mais
oui,
on peut aller jusqu'à 600-700 km d'autonomie.
Et alors, pour demain, on parle aussi de bateaux de pêche, on parle aussi donc des bus du côté de Cherbourg, aussi à l'hydrogène.
Écoutez, vous êtes particulièrement bien informé et je vous en remercie. Oui, effectivement, dans la mobilité, il y a les véhicules qui est une flotte captive aujourd'hui des collectivités ou du groupe La Poste, mais que l'on élargit également vers les services d'incendie et de secours, c'est-à-dire les pompiers, qui vont se doter également de camions. Il y a les bus et des CNS et CMN, qui sont deux grands constructeurs navals de la Manche, sont sur un projet de bateau de pêche qui fonctionnerait à l'hydrogène. Avec un intérêt majeur, c'est que à chaque fois qu'on va diminuer le prix du poste carburant d'un bateau de pêche, on augmente le gain du pêcheur.
Et oui. Dites-moi, pour le grand public, nous sommes tous les uns et les autres, ce sera, on va dire, pour quand?
Alors, la station de distribution d'hydrogène, elle fonctionne. Les premiers véhicules sont là. Et dans notre projet de développement au cours de l'année 2015, on aura 4, 5, 6 stations de distribution d'hydrogène pour satisfaire les besoins des clients qui sont en train de monter en puissance. Sur le bateau de pêche, c'est un délai de 2 à 3 ans parce qu'il faut d'abord concevoir un bateau, il faut concevoir la motorisation et donc il faut compter 2 ou 3 ans pour avoir le premier bateau qui sera un bateau à la fois expérimental, de démonstration et d'enseignement à la pêche.
Et écoutez, nous sommes le samedi 24 et donc dans deux jours, lundi 26, vous allez inaugurer cette station d'hydrogène à l'hôtel du département, donc à Saint-Lô chez vous. Merci Jean-François Legrand et puis donc à très bientôt. Merci à vous.
Merci bien.
Un monde en marche dans la Manche, mais aussi un monde en marche, ça continue, dans votre jardin.
Je l'ai descendu dans mon jardin, je l'ai descendu dans mon jardin.
Il piétinait mon romarin. Et j'aime pas ça qu'on piétine mon romarin. Ni mes coquelicots d'ailleurs, ni mes coquelicots.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Alors, entrons dans votre jardin et on va rencontrer Daniel Heiligenstein qui a créé prêtezsonjardin.com. Racontez-nous, j'ai un jardin, je veux éventuellement faire un potager, qu'est-ce que je peux faire et à quoi va me servir votre site ?
Eh bien, je peux déposer une annonce sur le site prêtezsonjardin.com pour trouver un jardinier qui habite ou une jardinière qui habite à côté de chez moi et qui pourra créer un potager dans mon jardin. En échange, soit d'une partie de la récolte, soit d'un service lié au jardinage, comme je sais pas, l'entretien du jardin, par exemple.
À la fois, on se dit que c'est complètement simple comme idée, mais en même temps, il y a quand même une véritable attente, parce que ça fonctionne bien. Aujourd'hui, il y a quand même pas loin de 15 000 jardins comme ça qui se mettent à circuler. Et alors, le but, c'est quoi ? C'est de créer du lien, c'est de se nourrir, c'est l'autonomie ?
Il y a tout ça, oui, c'est de créer du lien forcément, parce qu'on va rencontrer des gens qu'on ne serait pas amené à rencontrer dans la vie de tous les jours. Ça crée des liens, ça crée même des amitiés. Et puis, c'est aussi une manière de redonner du sens à ce que l'on mange. Parce que quand on cultive ses propres légumes, qu'on les voit pousser, et ben, ça donne forcément du sens à la nourriture. Et se nourrir avec le fruit de notre travail, finalement, c'est quelque chose qui est très valorisant. Et puis qui est très d'actualité, parce qu'on vit quand même dans une société économiquement un peu difficile. Donc c'est vrai que ça lie tout ça, quoi.
Alors, une fois de plus, ce constat de départ, c'est que vous êtes dit, il y a des gens qui ont des petits terrains, même s'ils ne sont pas très très grands, on peut peut-être en faire quelque chose, parce que d'autres personnes pourraient les utiliser, les exploiter, avec cet échange à la clé.
Oui, alors, que ce soit à la campagne ou à la ville, c'est indépendamment de la surface de terrain, c'est indépendamment du lieu où il se trouve, c'est vraiment une volonté d'avoir un rapport à la terre et aux aliments plus sains et un lien direct, en fait, avec ce qu'on mange.
Alors, je vais inscrire, je vais dire, moi j'ai un jardin. Bon, je vais le déposer comme étant une offre et puis je vais attendre une demande de quelqu'un. Alors, il faut que ça se passe dans le même secteur, on l'imagine.
Oui, justement, ça. Il y a des annonces qui sont classées par région, ouais, par ville. Donc, on peut trouver très facilement une personne qui est près de chez soi et qui a envie soit d'un jardin, soit d'un jardinier. Donc, c'est un site de proximité, finalement, ouais, qui couvre toute la France. Mais c'est un site de proximité parce qu'on peut trouver quelqu'un qui est juste à côté de chez soi, qu'on ne connaît pas et qui peut nous aider à créer un projet de potager qu'on travaille à deux.
Vous faites ça en France et en Belgique aujourd'hui. Évidemment, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de déclinaisons. Comment est venue l'idée ?
D'une part, parce que moi, je connais j'ai travaillé, j'ai fait des papiers sur les jardins familiaux. Je sais ce qu'on peut produire de la terre quand on y travaille. La quantité de légumes, je trouve que c'est impressionnant. Et c'est vrai que je me suis retrouvée avec un terrain. Et la première chose que j'ai eue en tête, c'est justement d'y créer un potager. Mmh. Et c'est presque une demande particulière. Et je me suis dit, forcément, il y a près de chez moi quelqu'un qui a envie de créer un potager également, sachant qu'il y a beaucoup de demandes pour les jardins familiaux qui ne sont pas satisfaites parce que voilà, il y a plus de demandes que d'offres. Et donc, j'ai pensé à cette possibilité. Pourquoi ne pas inviter quelqu'un qui est près de chez moi et qui viendrait avec moi travailler la terre et qu'on gagne tous les deux le fruit de ce travail, quoi. Tous les projets se passent autour d'une rencontre. Et le jardin, c'est un lieu magnifique pour faire une rencontre.
Prêtezsonjardin.com, je crois que vous avez compris évidemment le sens de ce lien. Et on poursuit aussi notre monde en marche après la manche et l'hydrogène, après son jardin. On va aller du côté de Détroit. Ouais, et d'ailleurs on l'entend ça. Détroit qui va passer du gris au vert, doucement mais qui y passe. Avec vous Gilles Biassette, parce que vous êtes journaliste à La Croix, donc on va vous rejoindre là-bas à Détroit. Vous avez une rivière qui sépare Détroit, donc des USA, du Canada. Et évidemment, il y a eu l'effondrement de l'industrie automobile, donc ça a été un chaos, 18 milliards de dettes. Donc aujourd'hui, à quoi ça ressemble, Gilles Biassette ? Bonjour à vous.
C'est ça, hein, c'est une ville qui a fondu de moitié en termes d'habitants. Il y a 700 000 habitants. Pour donner un ordre d'idée, la ville est quand même grande comme trois fois Paris. On comprend bien que c'est une ville qui est maintenant largement vide. Les entreprises sont parties, puis la population aussi est partie puisqu'il n'y a plus de travail. Il y a des zones en friche, donc la ville se pose la question de que faire de ces zones en friche, d'autant que la ville étant en faillite, comme vous l'avez dit, elle n'a plus les moyens de distribuer les services sur une superficie aussi grande. Donc il y a une véritable prise de conscience sur l'idée que Détroit n'a plus les moyens d'entretenir une superficie aussi vaste. Et qu'en même temps, bah, cette superficie, maintenant qui est en partie vide, bah, faut en faire quelque chose.
Alors, ce fameux quelque chose, c'est aussi un projet d'avenir. C'est-à-dire que l'on va retourner le gant, et ces friches peuvent être une image de la désolation, mais c'est aussi une image d'un futur. Alors, qu'est-ce que l'on tente de faire?
On voit émerger par-ci par-là des gens qui s'organisent avec le soutien de la mairie de temps en temps, aussi des industriels qui se disent, bon, bah, faut faire quelque chose de ces superficies vides, et on peut bâtir un nouveau projet collectif avec des idées assez concrètes de jardins communautaires, avec l'idée de replanter des arbres. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie. Là, en particulier, un exemple que je cite, un immeuble de 13 étages, vieil immeuble, et en plein centre de Détroit. Et puis bon, on l'a rasé, et puis il y a un homme d'affaires qui s'est dit, bon, bah, cette superficie-là, moi je vais la louer, puis je vais faire un jardin.
D'accord.
Donc il a travaillé avec des organisations sur place, il a travaillé avec un paysan urbaniste, et il a fait un petit jardin, qui est vraiment très très agréable à voir, qui est un lieu où les gens peuvent aller passer du temps, et peuvent aller jardiner, évidemment. Puis ce qui pousse, soit ils le partagent, soit c'est donné à des associations pour nourrir les sans-abri. Et donc ça crée, alors ça c'est un petit exemple, mais il y en a beaucoup dans la ville comme ça. Donc c'est assez étonnant quand on se balade, parce qu'on là on parle vraiment du cœur de la ville. Hein,
c'est et on a véritablement, on va dire, des petits bouts comme ça de ferme urbaine, hein, entre guillemets. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire que le moindre lopin qui peut être vide est maintenant recouvert de potager ou bien d'espace vert, mais on tend vers ça.
On tend vers ça. Alors évidemment, encore une fois, compte tenu de la superficie de la ville, il y a encore beaucoup de travail, mais beaucoup de ces activités sont concentrées dans le centre-ville. Donc là, quand on se balade, on voit que c'est pas uniquement anecdotique. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Et puis il y a des projets plus amples, hein, d'hommes d'affaires qui, là, il y en a un qui vient d'acheter plusieurs hectares, 60 hectares à la ville, de terre de la ville, avec des propriétés qui étaient abandonnées. La ville n'avait pas les moyens d'entretenir ça, ni même de détruire les maisons, parce qu'une maison à détruire, ça coûte à peu près 10 000 dollars. Donc quand on est en faillite et qu'il y a des milliers de maisons à détruire, là, on ne peut pas le faire.
Lui, il a racheté tout ça pour un demi-million de dollars. Hein.
C'est ça, il a racheté tout ça, et avec un projet très précis qui est donc de raser les maisons qui sont sur ces hectares-là et de planter des arbres. Alors, c'est l'Amérique, c'est-à-dire quand il y a une situation, un peu comme une entreprise ou quand une ville va mal, bon, bah, il y a toujours des gens qui se disent qu'il y a de bonnes affaires à faire. Là, en l'occurrence, le projet dont on parle, c'est un homme d'affaires, donc il fait pas ça 100% par philanthropie. Et donc, quand il a fait part de son projet, il y a eu, notamment dans le quartier, des réactions assez vigoureuses à l'encontre de ce projet. Et puis après, une fois que les choses se sont mises en place, bon, bah, les gens se rendent compte que oui, bah, avoir dans leur quartier des arbres plutôt que des maisons abandonnées, détruites, donc avec tout ce que ça suppose de risques de squat ou même d'incendie, bah, finalement, le quartier en profite aussi de cet environnement. Alors, à plus long terme, est-ce que l'homme d'affaires rêve de revendre ça dans 10 ans, quand évidemment les prix des terrains auront à nouveau augmenté?
On verra. Alors, on ne sait pas parier sur l'avenir. Mais sous les yeux, qu'est-ce que vous avez là, pas très loin?
Bah écoutez, là il fait froid, hein, à la limite du Canada, donc à cette période de l'année, il fait toujours froid. Et puis bah là, je suis pas loin du point de Joe Louis. C'est une sculpture du point du boxeur, du grand poids lourd mythique qui était venu avec sa famille du sud jusqu'à Détroit. Et c'est un point qui, à mon avis, symbolise bien la résistance de Détroit. C'est une ville qui, comme Joe Louis, a été au tapis une fois, et puis qui rebondit. Et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement à l'œuvre à Détroit. Il y a encore beaucoup de travail. Et il y a une créativité, il y a une énergie qui font plaisir à voir.
Merci à vous Gilles Biassette, je le rappelle, donc journaliste à La Croix et envoyé spécial, toujours spécial les envoyés, on se dit comme ça, donc à Détroit. Merci à Philippe Duclos, Éric Mainviel aujourd'hui à la technique, à Jérôme Boulet, notre assistant, à Pierre Jabot comme l'oiseau qui réalisait cette émission, à Anne Gouzon qui nourrit les sites. Si vous avez un peu de chance, je sais pas, faut aller voir sur le site, ça devrait s'améliorer, hein, tout ça, ça devrait s'améliorer. Mais hier, la semaine dernière, c'était en carafe. Cette semaine, je ne sais pas, si vous souhaitez déposer des messages sur le site, faites-le avec grand plaisir, ainsi que le répondeur, ça y marche. 01 56 40 40 35, 01 56 40 40 35. Je vous retrouve avec grand plaisir samedi prochain, je devrais vous emmener la tête dans les étoiles. Ouais, nous serons dans les Hautes-Pyrénées, du côté du pic du Midi de Bigorre, si je ne me suis pas trompé, ce qui n'est pas impossible. Là-dessus du bon petit loup, ce sera dimanche à 19h54 et dans quelques instants, ce sera l'ami Emmanuel Kerat que vous allez retrouver, la librairie francophone, et sûrement un petit mot aussi de sa part sur José Arthur. France Inter, nous allons poursuivre, cette fois-ci, avec un petit message.